La chose commune spéciale, redéconfinement, quelque chose comme ça. Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver pour cette première émission depuis les annonces gouvernementales qui ont annoncé donc la fermeture des écoles pour au minimum 3 semaines. Et donc du coup pour cette émission, je suis en compagnie de Gladys, bonjour.
Bonjour.
Et donc, comme on s'annonce des quelques journées, quelques longues semaines, même encore une fois chez soi à la maison, on vous propose un petit programme spécial, pas d'invité cette semaine, mais que nous deux en studio qui allons vous présenter un certain nombre de petites choses éventuellement à écouter et à regarder et à suivre. Bonjour Gladys, comment ça va ?
Ça va.
Un programme assez chargé pour cette émission un petit peu particulière puisque on a sélectionné un certain nombre d'informations. Alors, on commencera par vous parler d'un dispositif pour faire suite un petit peu à une des émissions qu'on a enregistrées en début d'année dans La Chose Commune. Ensuite, on vous fera notre petite revue de presse. On a sélectionné deux sujets en tout cas qui ne sont pas totalement déconnectés l'un de l'autre. D'ailleurs, on le verra. Et puis ensuite on terminera par plusieurs recommandations à la fois donc documentaires, un livre, du podcast, histoire de vous occuper pendant ces quelques semaines à venir. Et je te propose du coup de te donner la parole tout de suite Gladys et que tu nous présentes un dispositif intéressant, innovant et qui a été mis en place par un des invités de la Chose Commune de ces derniers mois qui est l'IGER, c'est bien ça ?
Voilà, exactement. Donc l'IGER a mis en place Communair. Alors Communair, qui s'écrit commun apostrophe R, est un service d'information pour connaître la qualité de l'air que vous respirez. Alors c'est du coup un outil développé par l'IGER pour informer chaque habitant de la région Centre-Val de Loire sur la qualité de l'air qu'il respire au quotidien, avec la prévision de la qualité de l'air du jour et du lendemain par commune. Comme ça, si vous prévoyez de faire du sport et tout, vous allez sur Communair et vous avez tout de suite un indice de la qualité de l'air, ainsi que la situation de la qualité de l'air communale par rapport aux indicateurs annuels mis à jour après l'année 2020. Alors cet outil, il se compose de graphiques et de cartes modélisées de bilan annuel pour chaque commune et région. Le bilan de la qualité de l'air sur le territoire est basé sur la modélisation nationale, prévert ou interrégionale. Donc en gros, vous êtes sûr que l'État fait un peu partie de ça, comme on avait vu dans l'émission de La Chose Commune. Les résultats bruts issus de cette modélisation sont affinés statistiquement à partir des données d'observation issues des stations fixes de l'IGER. Donc toutes les stations qui sont en région centre envoient des données en temps réel pour vous assurer un indice de l'air exact.
Oui, le plus proche du terrain.
Voilà. Mais cet indice de l'air, il comprend 3 polluants qui sont donc l'ozone, le dioxyde d'azote et les particules en suspension, les PM10, celles qui sont plus petites que des millimètres.
Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller voir Communair ? Où est-ce qu'on peut aller ?
Eh ben, soit vous allez sur le site de l'IGER, soit vous tapez tout simplement sur Internet Communair. Ça sera forcément celui de la région Centre-Val de Loire. Et pour apprendre à l'utiliser, vous allez voir une petite barre qui apparaît. Pour votre première utilisation, vous cliquez dessus et il y a...
Un petit tutoriel, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement.
Parfait. Très bien, eh bien merci. Donc du coup, voilà. En effet, tu le disais très justement, Gladys, si vous êtes sportif, si vous voulez vous promener en ville, si vous avez même des maladies respiratoires et vous voulez connaître un petit peu l'état de la qualité de l'air à côté de chez vous, voilà, c'est un outil au plus près du terrain qu'on vous recommande. Voilà, et donc du coup, on va passer maintenant à notre revue de presse. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à Fukushima se produisait une des plus grosses catastrophes nucléaires de l'histoire de l'humanité. Et donc du coup, je vais vous proposer deux articles à retrouver sur deux sites de médias indépendants. Le premier, c'est un reportage sur le site Reporter, TE2RE à la fin, le quotidien de l'écologie, qui est un média indépendant spécialisé sur les questions d'environnement. L'article donc est paru assez justement le 11 mars 2021, donc pile poil 10 ans jour pour jour après la catastrophe, et pose un état des lieux de la vie des habitants qui ont choisi soit de rester ou de revenir dans la zone. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour resituer un petit peu le contexte de Fukushima, parce que c'est certes récent et en même temps je pense qu'on a oublié un certain nombre d'éléments importants. Tout d'abord, donc la catastrophe nucléaire de Fukushima, elle n'est pas totalement liée à l'homme, elle n'est pas du tout liée à l'homme même, puisque donc le 11 mars 2011, on assiste à un tremblement de terre de magnitude 9 qui provoque un tsunami au large des côtes japonaises qui va submerger les 4 réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi. Autour des 20 km autour de la centrale, on provoque l'évacuation de la population, ce qui constitue 160 000 personnes, ce qui est quand même assez important. Hein. Cette vague de submersion, ce tsunami, ont provoqué la fusion des cœurs, ce qui va obliger un certain nombre de travaux de décontamination, puisque il y a des polluants nucléaires qui se sont propagés dans l'atmosphère. Et donc depuis 2013, dans la zone, il y a environ 5000 ouvriers qui travaillent en permanence. Et un des travaux les plus conséquents de décontamination, ça a été de retirer 5 cm de la couche superficielle du sol des champs cultivés et des jardins des habitants. Voilà, cette stratégie de décontamination a coûté 24 milliards d'euros au Japon, mais ça a aussi généré 20 millions de mètres cubes de déchets radioactifs. Alors ce sont des déchets qui sont peu radioactifs mais qui sont extrêmement volumineux, en sachant que sur la zone, toute la zone n'a pas pu être décontaminée puisque les montagnes, les forêts, c'est impossible pour des raisons financières et techniques de les décontaminer. Et donc, voilà, on ne sait pas exactement quel est le niveau de radioactivité dans ces zones-là. En avril 2017, seulement 10% de la population sont revenus habiter dans la zone. Il y a encore énormément de villes et de villages qui sont abandonnés. Et depuis 2020, officiellement, le gouvernement incite les gens à revenir à habiter dans la zone pour des raisons évidentes que c'est des populations qui sont stigmatisées à l'extérieur de cette zone et qui sont mal acceptées, puisqu'en plus on pense qu'ils portent des maladies, etc. Et donc du coup, et aussi parce que c'est des gens qui sont à la charge de l'État depuis maintenant 10 ans, qu'il faut nourrir, loger, aider financièrement. Et donc du coup, l'État, pour réduire ce coût, voudrait inciter les gens à revenir s'installer dans certaines villes de la zone qui sont considérées comme moins contaminées. Alors il y a une petite chose aussi à savoir avant que je vous donne un petit peu mon sentiment sur l'article, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les cœurs sont en fusion quasiment depuis 10 ans maintenant, et que pour éviter que la température à l'intérieur augmente trop, il y a de l'eau douce qui est en permanence injectée dans les cœurs pour refroidir le combustible en fusion. Et donc du coup cette eau se contamine, et donc du coup il faut trouver une solution pour se débarrasser, puisqu'on parle de cette eau, puisque là on parle de 1,24 million de tonnes d'eau contaminée par du tritium, qui est une forme faiblement radioactive de l'hydrogène. Actuellement, cette eau est conservée dans des réservoirs sur place. Mais bon, il y a des inquiétudes de la population, puisque 10 ans après la catastrophe, le pays va devoir trouver une solution avant l'automne 2022, parce que à cette date-là, l'espace de stockage de Fukushima pour l'eau sera entièrement saturé. Et donc, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Une des solutions envisagées, ce serait de relâcher cette eau dans l'océan, en considérant que c'est un volume d'eau conséquent, d'eau douce, mais que dans l'océan, la contamination se diluerait suffisamment pour que ça ne provoque pas de dégâts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet article ? Alors, cet article comprend à peu près toutes les données chiffrées que je viens de vous citer. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est un bilan, en plus d'un bilan chiffré, c'est aussi un retour d'expérience des habitants de la zone, où on peut voilà, on peut les entendre et on peut les voir puisqu'il y a un très très beau portfolio qui accompagne l'article avec, avec pas mal de photos des habitants sur place. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet article permet d'entendre la voix des rares habitants qui ont choisi de rester ou de revenir. On sent à la fois une vraie détresse des populations, des inquiétudes, et en même temps une vraie force, parce qu'il y en a beaucoup qui ont choisi de faire le chemin inverse et de revenir s'installer pour aider, pour participer quelque part à la relance de cette zone-là. Voilà. Donc, très bon article. Je vais vous reciter l'auteur. Donc, la journaliste, c'est Caroline Gardin pour Reporter. Et donc, c'est un article qui s'appelle « 10 ans après, la vie impossible des habitants de Fukushima » et qui est disponible sur le site de Reporter, comme la Terre à la fin. Ça, c'était le premier article. Et deuxième article, je voulais vous parler rapidement d'un excellent entretien pour le site Basta, qui est un bastamag.net, qui est un autre site de presse indépendante, qui est un entretien mené par Nolwenn Weller, hein, qui date du 12 mars. Un excellent entretien de Thierry Ribaud, qui est un économiste chercheur au CNRS et dont le travail s'attarde sur les questions de réponse aux désastres. Et donc du coup il a fait du nucléaire un de ses prismes de travail, et dans cet excellent article il explique comment le concept de résilience sert à étouffer toute réflexion sur les causes réelles des catastrophes. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est, alors l'auteur le définit comme l'art de s'adapter au pire. L'idée, c'est que les gens doivent apprendre à se contenter d'un bonheur palliatif où règne le trop peu, voilà. Ça permet de vivre avec, hein, et en même temps, l'auteur considère que cette injonction à vivre avec la catastrophe, ça permet aux autorités, en particulier aux autorités japonaises, de faire ravaler leur colère aux gens, parce qu'en fait, on va les impliquer, on va tenter d'emmener la population avec les autorités pour arriver à, quelque part, à les impliquer dans la réponse à apporter à une catastrophe à laquelle ils ne sont pas pour laquelle ils ne sont pas du tout responsables. Voilà. Et donc, du coup, le fait de les impliquer dans cette réponse à la catastrophe, ça permet au gouvernement d'éviter d'avoir à répondre des questions gênantes sur les raisons mêmes du pourquoi, du comment il y a eu cette explosion, et pourquoi on a installé une centrale ici, et qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui, notamment qu'est-ce que le gouvernement met en place pour protéger les populations. Voilà.
Donc, le gouvernement remet en cause les habitants pour l'implantation de ces vins?
Non, pas du tout. Il va essayer de les impliquer, il va essayer de les inciter à revenir sur la zone, et en leur disant vous allez être plus forts parce que vous allez permettre... Il essaie de valoriser quelque part les habitants qui reviennent sur place, de leur donner quelque part des raisons d'y croire, des raisons de faire avec, alors que concrètement il y a de la mise en danger à renvoyer des gens habiter sur place. Voilà. Et en fait il dit une chose très juste un petit peu sur ce concept de résilience. C'est vraiment un article qui est consacré à ça, hein, sur la question philosophique et même politique de cette idée de résilience, qui dit on est baigné depuis la révolution industrielle dans cette idée que le désastre est source de progrès, et la résilience contribue à la consolidation de cette idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour avancer, il faut quelquefois créer, il y a des échecs. Le progrès engendre des échecs qui peuvent être importants, désastreux, et il faut faire avec. Justement, oui. Pour qu'on puisse continuer à progresser, il faut aussi accepter que des fois on se foire et que ça ait des conséquences pour les gens, quoi. Voilà. Okay. Et donc du coup, il est très critique, hein, de ce concept-là qu'on entend même encore aujourd'hui, même en France, notamment par rapport à la catastrophe climatique, puisque évidemment, avec la catastrophe climatique qui arrive, l'augmentation des températures, les accidents climatiques qui vont être fréquents, puissants, il va falloir faire avec. Plutôt que de chercher à résoudre le problème, et bien, il va falloir vivre avec. Voilà.
Okay, oui.
Donc je vous conseille, hein, donc, sur bastamag.net, la lecture. C'est un petit peu ardu, mais ça vaut quand même le coup de s'y pencher. Donc cet entretien avec l'économiste Thierry Ribaud. Voilà, c'est tout pour moi. Et donc toi, de ton côté, Gladys, tu nous proposes de nous présenter un autre article, une autre enquête fort bien fournie, fort intéressante, qui est aussi en lien avec le nucléaire, je crois.
Exactement. C'est sur les essais nucléaires de la France dans le Pacifique, plus précisément dans les archipels polynésiennes. Alors, disclose et interprète, mais sans le E à la fin. Interprète, c'est un collectif de chercheurs et d'architectes, de scientifiques. Et Disclose, ce sont des journalistes. Ils se sont posés ensemble la question des essais nucléaires dans le Pacifique. Quelles sont les réelles conséquences, puisqu'on nous a caché pas mal de ces conséquences néfastes qu'il y avait eu. On a essayé de minimiser les effets de ces essais. Et Disclose et Interprète ont décidé de fouiller un peu dans les archives déclassifiées et de mener une enquête. Donc cette enquête, elle commence par leucémie, lymphome, cancer de la thyroïde, du poumon, du sein, de l'estomac, en Polynésie. L'héritage des essais nucléaires français est inscrit dans la chair et dans le sang des habitants. Le strontium a grignoté les os, le césium s'est concentré dans les muscles et les organes génitaux, l'iode s'est infiltré dans la thyroïde. Voici donc les premières lignes de cet article passionnant. Tout d'abord, je me suis dit que c'était un peu dramatique, que c'était assez orienté. Mais justement, je vous invite donc à vous renseigner sur le nucléaire, un peu plus que ce qu'on entend parler dans la rue, etc. À faire vos recherches sur l'histoire du nucléaire civil et militaire en France.
Oui, qui sont des sujets encore largement passés sous les radars des médias. Hein.
Exactement. Cet article remonte les archives de ces essais qui ont suscité une grande controverse quand même. Le 2 juillet 1966, l'armée française procède au tir Aldébaran, le premier des 193 essais sur 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, l'État français a décidé de tester ses bombes nucléaires 193 fois sur des archipels encore habités, quoique peu habités.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre de ces tirs-là se faisaient dans l'atmosphère.
Exactement. Et du coup, il y avait beaucoup plus de retombées sur le sol, dans l'eau. Par exemple, vous verrez dans cet article, il y a une petite île d'archipel dont la principale source d'eau potable, c'est la pluie. Du coup, ils ont des réservoirs de pluie. Et l'eau qu'ils boivent est complètement infestée par les atomes nucléaires. Et même, il faut savoir que le nucléaire, ça se concentre ne serait-ce que dans les nuages. Donc, même si, en fait, quand le soleil passe à travers les nuages, eh bien, les atomes nucléaires profitent de cette lumière descendante pour vous contaminer.
D'accord, donc c'est une pollution qui est présente partout, tout le temps.
Exactement.
Et même encore aujourd'hui, du coup.
Voilà. Donc, c'est une enquête de 2 ans menée par Disclose et Interprète en collaboration avec le programme Science et Global Sécurité de l'Université de Princeton aux États-Unis.
Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut la retrouver, cette enquête ?
Vous tapez juste Disclose et ses nucléaires dans le Pacifique sur Internet. Vous allez cliquer sur le premier Disclose. Il va vous mener vers l'enquête. C'est toxique. Et ensuite, vous choisissez votre langue. Français ou anglais.
Très bien. Voilà nos préconisations de lecture, en sachant que j'ai cru comprendre que c'était quand même un article conséquent, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations.
Voilà, oui, ponctué de vidéos explicatives et d'archives. Et du coup, aussi, vous pouvez aller en haut de la page sur différents onglets, et particulièrement sur méthodologie, et vous retrouverez tous les archives classées secret défense qui ont été déclassifiées et vous pouvez vous-même faire vos recherches, vos calculs, etc.
Voilà, on a la possibilité de vérifier l'entièreté des informations qui sont délivrées dans cet article et ça c'est à souligner parce que voilà, ça permet de voir un petit peu aussi l'envers du décor, la méthode, la façon de travailler des journalistes sur ces questions-là. Je suppose qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter puisque j'ai cru comprendre que l'affaire n'était pas totalement soldée, il y avait encore des procès en cours. En particulier des populations sur place qui cherchaient à avoir gain de cause auprès du gouvernement.
Voilà, puisque le gouvernement ne s'épuise pas ne fait que dire que les cancers, parce qu'il y a un cluster de cancers qui a été fait, enfin qui se dévoile, et l'État refuse d'accepter que ces cancers sont les conséquences de ces essais nucléaires. Donc tous les habitants de ces archipels essayent de gagner gain de cause et de se faire indemniser pour les cancers qui déciment des familles entières.
Très bien, ben, merci pour cette présentation. Voilà, Toxique, la dernière enquête du groupement de journalistes Disclose. Donc on a parlé de reporters, on a parlé de Bastamag, on parle de Disclose, et moi je voudrais en ajouter un petit dernier dans la liste des médias indépendants qui parlent de la question environnementale. Ça s'appelle Vert, c'est aussi un média en ligne constitué principalement d'une newsletter gratuite et quotidienne sur l'actualité environnementale. Alors personnellement, moi j'y suis abonné et je m'en sers dans mon travail de veille pour la radio et notamment pour la préparation de cette émission. Ça me permet d'alimenter ma liste de sujets, mais en dehors de ça, c'est aussi une bonne source d'information qui passe souvent sous les radars des grands médias traditionnels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en accès libre, sans publicité, et que c'est financé uniquement par les dons des gens qui souhaitent financer ce genre d'initiative. D'ailleurs, Bastamag et Reporter existent un petit peu sous le même modèle. Voilà, donc ces quatre médias dont on parle dans cette émission, je pense que c'est important de les soutenir, parce que c'est une presse réellement indépendante. Donc voilà, et pour finir sur Vert, ils ont également une chaîne YouTube sur laquelle ils produisent de longs entretiens avec des personnalités publiques sur leur rapport à l'écologie. Voilà, n'hésitez pas, c'est plutôt bien fichu et très très instructif. Ben, on arrive à la dernière partie d'émission. Nos recommandations, c'est ça ?
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut voir là maintenant, tout de suite, ou dans les jours qui viennent, pour se faire une idée de sujets liés à l'environnement ? Qu'est-ce que tu as à nous proposer, toi ?
Moi, un super documentaire réalisé par Arte, cette chaîne franco-allemande qui...
Qu'on ne présente plus.
Oui, c'est vrai.
Excellent, Arte.
Oui. Eh bien, je trouve que ça marche super bien parce que en pleine période Covid, on a tendance à beaucoup acheter de vêtements en ligne, à se faire livrer sans compter. Et là, ça rejoint le côté écologique. C'est que ce documentaire est sur la fast fashion. La fast fashion, c'est justement ces petits magasins, enfin ces grands magasins même, qui proposent des vêtements à petit prix et à faible qualité. Donc, cet article nous présente l'envers du décor, autant sur la planète que sur les personnes qui sont employées pour fabriquer ces vêtements. Donc, je vous conseille fortement d'aller le regarder. Et
donc, du coup, on peut le retrouver sur...
Sur YouTube et sur Arte en replay. Donc, c'est gratuit sur YouTube, vous en faites pas. Vous pouvez y accéder, vous tapez Arte Fast Fashion et c'est bon.
Et l'intitulé précis du documentaire, tu peux nous le redonner ?
Donc, c'est Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix.
Voilà, un documentaire d'une heure et demie. Ok, donc une fois qu'on a maté ça, et puis qu'on peut aussi éventuellement explorer un petit peu ce que propose Arte, puisqu'il y a énormément d'autres choses super intéressantes, moi je voulais vous proposer donc la lecture d'un livre qui s'appelle « À la ligne, feuillet d'usine » de l'auteur Joseph Pontus, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, à 42 ans, d'un cancer généralisé. À part ça, le livre en lui-même a raflé beaucoup, beaucoup de récompenses, et vous allez comprendre pourquoi. Hein. Et en particulier, il a été lauréat du prix Robles du premier roman, donc roman 2020, donc décerné par les lecteurs des bibliothèques de Blois Aglopolis. Donc, À la ligne, c'est le premier roman de cet auteur, Joseph Pontus, et c'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués par la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Alors, ce qu'il sauve, c'est qu'il a une grande culture, puisqu'il a fait des études supérieures, et que notamment, il connaît les auteurs latins, il a lu Dumas, Apollinaire, et il connaît les chansons de Charles Trenet. Et c'est ce qui lui permet un petit peu de s'évader quand il travaille, en fait. C'est-à-dire qu'il se réfugie à l'intérieur de sa tête, et il imagine, il s'invente des mondes, en fait, quelque part. La particularité du roman, c'est qu'il est écrit sans ponctuation et qu'il nous renvoie à la ligne constamment. C'est-à-dire qu'au milieu d'une phrase, il va aller à la ligne suivante. constamment, sans qu'on s'y attende, en essayant de nous faire perdre le rythme, parce que tout cela, ça rentre en résonance avec le quotidien de l'ouvrier sur sa ligne de production, qui subit lui aussi le rythme de celle-ci, en fait. Et voilà, il nous emmène comme ça dans ce rythme-là, complètement décousu, complètement aliénant aussi. Alors, moi, je trouve que c'est un livre formidable et assez inattendu, drôle et dur à la fois. Ça fait mal, moins que si on était à sa place tout de même sur la chaîne, sur la ligne. Mais ça met une claque sur l'état du monde ouvrier, de l'usine et de cet univers à part que sont les abattoirs, où les vraies machines, ce sont les hommes. Voilà. Donc, c'est À la ligne de Joseph Pontus, qui a dû sortir en format poche et qui, sinon, est à retrouver aux éditions de La Table Ronde. Et puis pour finir cette émission, puisqu'on arrive déjà au terme de cet épisode un peu particulier, peut-être qu'on reprendra le format pendant les semaines qui viennent, puisque on aura l'occasion peut-être de vous donner des informations un petit peu en lien avec l'actualité. Moi, je voulais vous faire entendre, en tout cas vous proposer d'aller écouter une série de podcasts sur une radio nationale, une radio de très grande qualité, qui s'appelle France Culture, que vous connaissez certainement, en particulier l'émission Les Pieds sur Terre, qui propose une série en trois parties qui s'appelle L'Ogre du Lait. Alors on revient un petit peu au sujet dont on a parlé juste avant, puisque c'est une série qui a été produite en partenariat avec le Disclose, dont on parlait sur les essais nucléaires, qui ont travaillé pendant un an sur le système Lactalis. Alors Lactalis, c'est une entreprise que vous connaissez, on commence à en entendre parler un petit peu parce qu'ils commencent à avoir quelques affaires aux fesses. On les a entendu parler, on a entendu parler d'eux sur des histoires de lait pour bébé contaminé à la salmonelle, pour des histoires d'agriculteurs qui étaient mal rémunérés pour le lait qu'ils produisaient. Et voilà, donc Lactalis, en fait, c'est un groupe qui est numéro un mondial des produits laitiers et qui, on va dire, a des façons de travailler un peu particulières. C'est des marques très connues comme Président, comme Lactel, comme plein de gruyère, plein de fromage à droite à gauche. Le propriétaire de cette entreprise qui s'appelle Monsieur Beignet et fait partie des 5 plus grosses fortunes françaises. Et donc du coup, voilà, les pieds sur terre, en particulier donc Disclose et une journaliste qui travaille bien avec à la fois Disclose, à la fois aussi France Culture, les pieds sur terre, c'est Inès Leroux, qui est une journaliste indépendante qui habite la Bretagne. Donc voilà, trois volets sur Lactalis. Le premier volet qui est sur un épisode de pollution qui est sur une des plus grosses laiteries d'Europe qui appartient au groupe Lactalis. Et voilà, donc il y a eu des rejets de lait dans une rivière qui a absolument tué tous les poissons. Et donc du coup, cette pollution a dû être gérée de façon, on va dire, assez approximative au départ par l'entreprise. En 2017, il y a eu des rejets d'eau usée dans cette qui ont tué toute vie aquatique sur 8 km. Et pour lutter contre ça, ils ont envoyé deux mecs sur un canot pneumatique. En gros, voilà, c'est ça à peu près. Voilà. Et après, quand ils se sont aperçus que c'était un peu plus costaud que ce qu'ils pensaient au départ, ils ont envoyé des vraies équipes de nettoyage.
D'accord.
Donc ça, c'est raconté dans le documentaire. C'est assez affreux, c'est assez affolant.
Bah ouais, quand même.
Ensuite, on a aussi un documentaire 30 minutes sur Belle-Île-en-Mer et sur justement les éleveurs de vaches laitières sur Belle-Île-en-Mer. Donc sur les 10 éleveurs, il y en a 9 qui travaillent pour Lactalis. En sachant que le lait qui est produit à Belle-Île-en-Mer prend le bateau pour rejoindre le continent. Et ensuite, évidemment, Lactalis fournit des produits au supermarché de Belle-Île-en-Mer. Donc du coup, ça fait le retour par le bateau. Voilà. Donc on va dire qu'en termes de circuit, c'est pas ouf. Surtout que les producteurs, ils sont pas bien payés, quoi. Et donc du coup, il y a sur place à Belle-Île une tentative quelque part de relocaliser, de travailler autrement. En tout cas, il y a un vent de rébellion contre le système. Et ça, c'est assez rafraîchissant à écouter. Et donc, pour finir, le dernier épisode, très intéressant, j'ai entendu, ça m'a fait halluciner, c'est sur le Roquefort. Le Roquefort, vous connaissez tous, c'est quand même un fromage emblématique du terroir français. Et il se trouve que dans l'Aveyron, en fait, Roquefort, la marque société surtout, qui est le plus gros producteur de Roquefort, appartient au groupe Lactalis. Plus que ça, Lactalis ne possède pas uniquement le fromage, la marque, il possède les caves dans lesquelles est produit le fromage, et ça représente 80% du bâti et du foncier du village de Roquefort dans l'Aveyron. Et donc du coup, voilà, l'entreprise, ils sont les rois en fait, même si il y a des citoyens, il y a des habitants, il y a des élus dessus, concrètement, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, encore une fois, ça vous montre c'est vraiment hallucinant, hein. Donc je vous conseille vraiment d'écouter ces trois épisodes de 30 minutes des Pieds sur Terre sur Lactalis. Ça fait froid dans le dos. Ben voilà, on arrive au terme de cette émission, Gladys.
Oui.
On dit à bientôt aux gens.
Exactement, et bon courage pour ce confinement.
Ouais, on sera de tout cœur avec vous, on sera dans la même galère que vous d'ailleurs.
Ah, et si vous voulez caler vos enfants devant un film écologique, mettez-les devant Wall-E.
Wall-E, exactement, oui. Wall-E de Pixar, oui, en effet, un très 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 bon choix de film, de belles fables justement sur la question de l'écologie, et pas que d'ailleurs. Et ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, ben, on continue à agir pour la chose commune.